chers amis auditeurs, bonjour à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur les ondes de Radio Selve Regina pour notre partage septimanal de la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Lectio Divina. Aujourd'hui, nous commencerons une série de méditations sur le roi David. Le roi David occupe une place importante dans la Sainte Écriture, qui consacre plus de pages à sa vie qu'à celle de tout autre personnage de l'Ancien Testament. Il est par excellence le roi selon le cœur de Dieu, comme nous l'a dit la Bible. David est le pasteur qui prie pour son peuple et en son nom. Il est celui dont la soumission à la volonté de Dieu, la louange et le repentir seront le modèle de la prière du peuple d'Israël. L'exemple de David peut nous aider à apprécier à quel point la vie de foi comporte une attitude active, toute de confiance et d'abandon entre les mains de Dieu. David nous montre une ténacité pour chercher à répondre pleinement au dessein divin sans se décourager. Mais surtout, David est un exemple d'effort pour recommencer la lutte spirituelle avec une ardeur toujours renouvelée, y compris après les chutes et les péchés même très graves. Avant de méditer avec vous les passages du premier livre du Samuel, je voudrais essayer de regarder avec vous comment Dieu prépare David pour cette vocation royale qu'il va lui confier. Bien sûr, très humblement, nous allons regarder comment ces plans de Dieu s'est déroulé dans les générations qui ont précédé David. La généalogie de Jésus-Christ au début de l'évangile de Saint Matthieu est aussi la généalogie de David. Donc je vous invite à écouter ce passage qui est assez compliqué à lire et à écouter, mais qui nous apportera quelques informations importantes pour la vie de David. Écoutons l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 1, les versets de 1 à 16.
De l'Évangile selon saint Matthieu. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Phares et Zara de Tamar. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Bouz de Rahab. Bouz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihoud. Abihoud engendra Éliakim. Éliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Elioud. Elioud engendra Éléazar. Matan, Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ.
De nos jours, il est très populaire de chercher sa propre généalogie. Internet, les différents programmes informatiques créés à cet effet nous aident à retrouver nos ancêtres. Mais pourquoi recherchez-vous la généalogie? Était-ce juste par curiosité pour vos ancêtres? Ou qui des personnages célèbres est peut-être lié à moi? Ou peut-être pour retrouver ses propres racines? Cette recherche de ses racines, de sa généalogie, est due à un sentiment général de confusion dans notre monde. Au moins, c'est cela que je crois. Cependant, la lignée biblique a une attitude complètement différente. Il ne s'agit pas pour l'homme perdu de trouver sa place dans l'histoire ou dans le monde. La personne biblique, et donc chrétienne, n'est pas perdue. Car dans l'histoire biblique et le monde sont des lieux d'action de Dieu. En les suivant, vous pouvez voir comment Dieu conduit l'homme à travers les générations successives. Cela est particulièrement évident dans l'exemple de David. La lignée de David montre comment Dieu a préparé son appel de roi à travers les générations précédentes. Cependant, ce n'est pas simple. Car les Saintes Écritures veulent non seulement nous transmettre des connaissances, mais surtout nous apprendre à lire l'histoire, c'est-à-dire à trouver le sens des événements anciens et récents qui constituent notre histoire personnelle. Dans la lignée de David, nous avons entendu Salomon était le père de Boaz et la mère était Rahab. Boaz était le père d'Obed et sa mère était Ruth. Obed était le père de Jessé et Jessé le père du roi David. Ainsi, juste avant David, deux de quatre femmes apparaissent dans toute la lignée du Seigneur Jésus et de celle de David. De plus, toutes ces deux femmes sont païennes, Rahab et Ruth. Il était illégal pour les Juifs d'épouser des païennes, mais Rahab et Ruth sont particulières. Toutes les deux se convertissent, abandonnent leurs coutumes païennes et choisissent en vérité le Dieu d'Israël. Bien que ce processus à Rahab ne soit que brièvement marqué dans la Bible, par contre, pour Ruth, c'est tout un livre que nous avons déjà médité ensemble qui est consacré à cette histoire de conversion et de la beauté de sa foi. Qu'est-ce que cela signifie pour David et sa vocation? Bien, David doit avoir connu l'histoire de sa famille. Ruth était son arrière-grand-mère, donc il pouvait la rencontrer personnellement, la connaître. Mais ce qui est encore plus important que la connaissance elle-même, c'est ce que les personnes ont apporté à sa famille à travers leurs attitudes dans la vie. Voyez, pour nous aussi, peut-être nous ne connaissons pas nos ancêtres personnellement, Mais depuis que nous sommes petits, on nous répète que telle ou telle personne de notre famille avait telle ou telle attitude. Parfois, on nous dit même « tu ressembles à ton arrière-grand-mère, par exemple, parce que tu fais ceci ou cela comme elle ». Alors, qu'est-ce que David a appris des attitudes de Ruth et Rahab? Eh bien, je pense qu'elles ont apporté des choses extrêmement importantes. L'ouverture aux autres, la recherche de Dieu, l'humilité et surtout une attitude de conversion. Je vous rappelle, toutes les deux étaient païennes et ils ont appris à se convertir, à revenir en continuation vers ce Dieu vivant. Alors David, consciemment ou inconsciemment, deviendra héritier de ses valeurs et de ses attitudes. Dieu dit à propos de David dans la Bible, « J'ai trouvé David un homme sur mon chemin. » Comment David est dans le chemin de Dieu si à l'avenir il se révèle être un homme faible, un adultère, un assassin, un homme combatif? Oui, tout ça est vrai. Mais il sera toujours un homme ouvert à l'écoute des autres. Un homme qui cherche le vrai Dieu. David, il montrera toujours l'humilité et il sera toujours prêt à se convertir, à demander pardon. Ses qualités ancestrales lui feront accomplir la volonté de Dieu en tout. Le facteur décisif dans la vie n'est pas la faiblesse humaine, mais la foi en Dieu qui renforce et grandit dans une conversion constante et humble. Et cette attitude de conversion de David était particulièrement distinctive. Alors nous, osons-nous aussi à regarder aujourd'hui notre histoire, notre généalogie. Quelles attitudes familiales ont façonné ma personne? Quel héritage spirituel ou de valeur peut m'aider aujourd'hui dans ma vie de foi? Après ces réflexions sur l'héritage spirituel dont a bénéficié David, nous allons prendre et méditer les récits sur l'onction de David. Je choisis ces passages parce que j'adore cette image de Dieu qui cherche quelqu'un, qui cherche son serviteur, qui cherche son roi. Dieu choisit celui qui a appelé auparavant, depuis toute l'éternité. Et il choisit les personnes jamais par hasard. Mais il les cherche. Il se met à sa recherche. Il cherche un homme bien précis, qui est déjà présent dans le cœur de Dieu. Homme avec ses qualités, ses défauts. Et vous savez, Dieu est champion de trouver les pires, les moins bien, les nuls, pour en faire ses amis, pour en faire l'instrument de son salut, de sa grâce. Écoutons maintenant le premier livre de Samuel, le chapitre 16, le verset 1 à 13.
Yahvé dit à Samuel, « Jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saül, alors que moi je l'ai rejeté et qu'il n'est plus roi sur Israël ? Emplis d'huile ta corne et va. Je t'envoie chez Jessé, le Bethléemite, car j'ai vu parmi les fils le roi que je veux. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Mais Yahvé reprit, « Tu prendras avec toi une génisse et tu diras « C'est pour sacrifier à Yahvé que je suis venu. » Tu inviteras Jessé au sacrifice et je t'indiquerai moi-même ce que tu auras à faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que Yahvé avait dit. Quand il arriva à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et dirent « Que ta venue soit paix !» Samuel dit « Paix sur vous !» C'est pour sacrifier à Yahvé que je suis venu. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il purifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit « Sûrement pour Yahvé, c'est son oint !» Mais Yahvé dit à Samuel « Ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. » Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux, mais Yahvé voit le cœur. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel qui dit « Ce n'est pas lui non plus que Yahvé a choisi. » Jessé fit passer Shamma, mais Samuel dit « Ce n'est pas lui non plus que Yahvé a choisi. » Jessé fit ainsi passer ses 7 fils devant Samuel, mais Samuel dit à Jessé « Yahvé n'a choisi aucun de ceux-là. » Samuel dit à Jessé « Les jeunes gens sont-ils au complet ?» Celui-ci répondit « Il reste encore le plus jeune, il fait paître le petit bétail. » Alors Samuel dit à Jessé « Envoie le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. » Jessé l'envoya chercher. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et Yahvé dit « Va, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Quant à Samuel, il se mit en route et partit pour Rama.
Au début de ce passage, nous trouvons Samuel, le voyant, le prophète. Faisons un petit voyage dans l'espace et le temps pour nous poser à l'époque des juges sur la terre d'Israël. Selon les périodes bonnes ou mauvaises, des juges apparaissaient et disparaissaient du paysage social pour régler des questions épineuses. Samuel rentre dans cette lignée de juges et de prophètes. Qui ne connaît l'histoire de sa naissance miraculeuse et celle de son élection très jeune pour servir Dieu? Nous l'avons d'ailleurs médité ensemble la semaine dernière. Samuel devient le juge, le conducteur et même le sauveur du peuple dans sa guerre contre les Philistins. Sa notoriété a grandi au fil des années, au point qu'il est chargé de désigner les rois. Le roi qui veut à tout prix le peuple d'Israël. Malgré les avertissements de Dieu qui place certaines paroles sur la bouche de Samuel. Je vous invite de lire les chapitres précédents du livre de Samuel. Donc, grâce à Samuel, il a choisi le premier roi, Saul. Et c'est un roi que les Écritures nous décrivent comme un homme à la conduite honteuse aux yeux de Dieu. Au premier verset de notre passage, Samuel est l'objet d'un reproche, le reproche du Seigneur, parce que le Seigneur a déjà décidé que Saul ne sera plus le roi du peuple d'Israël. Et le Seigneur pose cette question à Samuel. « Combien de temps encore tu seras en deuil à cause de Saul ?»« Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. » Pourquoi Samuel vit cette douloureuse déception? On dirait que Samuel a attaché son cœur au roi Saul, qu'il a du mal à changer et obéir à la volonté de Dieu. Pour nous, c'est pareil. Parfois, le Seigneur nous déroute et nous demande de nous détacher de certaines personnes ou certaines choses. Et nous portons cette tristesse intérieure, un sentiment du deuil, comme dit le Seigneur à Samuel. Parfois, nous fixons notre regard sur ce qui nous manque, sur ce qui nous a été enlevé, sans nous apercevoir que Dieu nous envoie vers les autres. Rappelons-nous ces moments de tristesse, ces expériences d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose de précieux. Cela nous aidera à comprendre mieux ces passages. Mais vous voyez, Dieu ne veut pas nous laisser dans la tristesse. Non plus Samuel. Il veut amener Samuel à espérer et à se réjouir. De suite après son reproche, il lui parle d'un roi selon son cœur. Mais Samuel a peur. Il dit, Saul va le savoir et il me tuera. Il a peur de mourir, d'être tué. Mais je crois aussi qu'il se cache derrière cette peur. Au fond, il veut chercher des excuses, il veut dire aussi, je n'ai pas envie de chercher un autre roi. Par sa tristesse et par sa peur, il veut retenir en lui encore ce roi Saul qu'il a choisi. Il veut retenir son affection et son attachement à roi Saul. Comme ces personnages de la Bible sont semblables à nous, n'est-ce pas? Et Dieu comprend Samuel. Il l'assure tout de suite. Il lui donne une solution, un alibi, pour réaliser la mission d'onction de roi, sans risquer la mort. Il lui dit, « Tu diras à Bethléem que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Comme ça, personne ne soupçonnera que tu vas oindre un nouveau roi. » Et Samuel part à Bethléem. Nous pouvons imaginer ce chemin. Comment il devait être long. Parce que quand on a peur et on n'a pas envie, la route ne finit jamais. Par ce passage, Dieu veut nous dire que pour quitter la tristesse, il faut sortir de nous-mêmes. Il faut prendre la route vers les autres. Seigneur, donne-nous ce courage-là, de nous détacher de notre blessure et de notre tristesse. Si vous avez noté, le Seigneur envoie Samuel à Bethléem pour choisir le roi, mais il ne donne aucun indice pour orienter le choix de Samuel. Le Seigneur illumine la route pour un pas seulement. Il dit à Samuel ce qu'il faut dire aux gens et puis silence radio. C'est pour cela que Samuel se met à la place de Dieu et commence à chercher le roi selon ses propres critères. Il vient à la maison de Jessé avec des certitudes qui seront balayées en trois coups. Eliab, Abinadab, Shammah, et les autres fils de Jessé, vers qui Dieu a envoyé Samuel, passent devant lui. Et en les regardant, Samuel pense, c'est celui-ci. Il regarde l'homme, la prestance, l'aisance, les guerriers, bref, tous ceux dont de son temps faisaient sortir un homme de l'ordinaire. Samuel, c'est un homme qui, comme tous les humains, regarde à l'apparence des choses. Un regard conditionné par les circonstances, par la personnalité de celui qui porte, par ce qu'il voit à travers sa propre vie, sa propre expérience. Chacun de nous voit à travers les prismes de ce qu'il est. et Samuel n'échappe pas à la règle. Je pense qu'il cherchait un semblable à Saul, son roi bien-aimé, qu'il avait tellement du mal à se détacher de lui. Il regarde les hommes qui défilent devant lui avec le même regard que ses contemporains. Mais Dieu lui dit, « Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. » Il est beaucoup question de regard dans ces textes. Dieu nous montre qu'il ne regarde pas l'apparence, mais le cœur. Et moi, cette semaine, je nous invite à travailler sur notre regard. Comment regardons-nous les merveilles de la création? Rendons-nous grâce au Seigneur pour tout ce qui vit, grandit, change autour de nous. Comment regardons-nous notre propre personne? Osons-nous voir ce qui est beau et ce qui est bon en nous? Mais aussi, osons-nous voir nos limites et nos faiblesses? Et comment regardons-nous les autres? Posons-nous sur eux ce regard d'amour qui précède tout le reste, ce regard bienveillant? Comment regardons-nous ceux qui souffrent? Et comment regardons-nous le Seigneur? Notre prière est-elle contemplation de ce qu'il est, ce qu'il donne? Ou plutôt, nous sommes toujours en quête, en demande, en colère contre lui. Comment regardons-nous? Comme les hommes? Ou comme Dieu regarde la réalité? Samuel est aussi un homme humble qui essaye de se laisser guider par le regard de Dieu. Il finira par demander Jessé s'il y a encore un fils. Jessé dit qu'il y a encore un autre, un petit. Le petit, on pourrait traduire par l'insignifiant, par sans importance ou les faibles. David, pour son père, est si petit, si invisible, qu'il l'avait carrément oublié dans la liste de ses enfants. Et pourquoi? David, nous dit la Bible, était roux, avec un beau regard et une belle tournure. En entendant ces caractéristiques, il nous faut se détacher de notre raisonnement d'aujourd'hui. Pour nous, ça semble beau qu'il était roux, beau regard, belle tournure. Mais à l'époque de Samuel, un garçon qui était beau, qui a une belle tournure, ce n'est pas très glorieux. C'est plutôt honteux. Pourquoi? Parce que c'est comme dire aujourd'hui qu'un garçon ressemble à une fille, qu'il a des attitudes presque homosexuelles. Pour cela que Jessé le gardait à l'écart, loin de sa maison. David était berger pour qu'il puisse acquérir des caractéristiques de l'homme comme la force, le courage, la responsabilité. Mais David est aussi le huitième fils. Et le nombre 8 dans la Bible symbolise en général l'introduction d'un ordre nouveau. Par exemple, le huitième jour de la création désigne le ciel nouveau et la terre nouvelle après la parousie. C'est vraiment quelque chose, un nouveau début, un nouveau commencement de l'histoire. Donc, choix de David, le huitième, c'est un tournant dans l'histoire. Et ce pauvre garçon David a dû rien comprendre de ce qui lui arrivait. Il était sur les champs avec ses brebis, en solitude, dans le silence de la nature, et d'un coup, sans poser une question, il rentre à la maison et Samuel lui verse huile sacrée sur la tête pour le désigner comme roi. Je pense d'ailleurs que personne n'a rien compris sur le moment. Ni ses frères qui observent la scène, ni son père qui avait honte de David, ni même Samuel qui obéit à Dieu mais comprend pas grand-chose. Et c'est ça, la vraie action de Dieu. Dans l'ordinaire de la vie, d'un coup, il y a une effusion de la grâce, un appel vers. Mais c'est avec le temps qu'on comprend petit à petit d'où vient cet appel et où il veut nous mener. Par exemple, nous pouvons penser à une vocation religieuse qui, au début, on a l'impression qu'il nous tombe sur la tête de nulle part. Je vous assure que c'est comme ça. Ou quand on tombe amoureux. On ne sait pas comment, pourquoi et quoi faire avec ces sentiments. C'est avec le temps que nous comprenons que c'est l'action de Dieu. Que cet événement-là, c'est parce qu'il nous a choisis depuis l'éternité. Et que c'est grâce à son appel qu'il nous prépare un chemin concret, personnel, individuel, pour nous conduire vers le ciel, vers l'éternité. Seigneur Dieu, donne-nous de regarder aujourd'hui notre histoire avec tes yeux, d'admirer tes œuvres et de découvrir quel chemin aujourd'hui tu ouvres devant moi. Amen.